L'appel d'un mouvement, l'émission bimestrielle, un vendredi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. L'appel d'un mouvement, Kingston et le reggae. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'appel d'un mouvement. Aujourd'hui, je vous embarque en Jamaïque et plus précisément à Kingston, sa capitale, qui a vu naître le reggae. Mais avant de parler de l'émergence du genre, il me faut vous délivrer 2-3 éléments de contexte, à commencer avec ce mouvement indissociable du reggae, le mouvement Rastafari. Pour comprendre le message Rastafari porté par le reggae, je vous propose qu'on remonte le temps au début du siècle dernier. C'est alors que, dans les années 10-20, un homme galvanise ses publics en promouvant une réelle fierté noire. Cet homme, c'est Marcus Garvey, un Jamaïcain émigré aux États-Unis en 1916. Il fait figure de leader auprès de la communauté noire et porte un message d'espoir, de reconstruction et de réappropriation de l'identité noire. Il prône notamment une élévation de cette identité noire ainsi qu'un retour en Afrique. Il appuie ses propos avec tout un imaginaire de puissance des populations africaines qui auraient alors le contrôle total de leurs propres terres, s'étant débarrassées de la présence coloniale. Fondateur de l'Association universelle pour l'amélioration de la condition des Noirs, Marcus Garvey, avec sa célébration de l'identité noire, est ainsi devenu une véritable inspiration pour les mouvements anticoloniaux et nationalistes noirs qui émergèrent durant le siècle. Alors, si Marcus Garvey n'est pas l'initiateur du rastafarisme et encore moins du reggae, il reste pourtant une figure phare dans les textes des artistes, comme on peut le constater avec ce premier morceau, intitulé, eh bien, Marcus Garvey, du groupe Burning Spear, est sorti en 1975.
Marcus Garvey's words come to pass. Marcus Garvey's words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Whoa. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend.
Plus qu'un leader, en fait, Marcus Garvey va jusqu'à accéder au statut de prophète lorsqu'il prédit le couronnement d'un roi noir et prêche la nécessité de croire en un dieu noir en tant que communauté noire. Or, cette glorification de l'identité noire se concrétise le 2 novembre 1930 lorsque monte sur le trône d'Éthiopie l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Il est dit que cet empereur noir est un descendant direct de la reine de Saba et du roi Salomon, et ce caractère divin est renforcé par les diverses références bibliques faites à l'égard de l'Éthiopie. À ce sujet, on peut aussi ajouter qu'à une époque où l'Afrique était quasi entièrement colonisée, l'Éthiopie était un des seuls pays à être indépendant. Donc clairement, l'assimiler à une terre promise faisait tout à fait sens. À ce stade, on a donc une terre promise et un messie en la personne d'Haïlé Sélassié Ier. Maintenant, si je vous dis que l'info que je m'évertue à vous contextualiser depuis tout à l'heure, elle était souvenée depuis le début. Je m'explique. Et pour ça, je vous propose qu'on décortique le mot Rastafari. On a d'un côté le préfixe ras, qui correspond au titre octroyé à la plus haute dignité éthiopienne. Et ensuite, on a le nom Tafari, qui n'est autre que le nom de naissance de l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Et voilà, il est là notre lien direct et très clair entre le rastafarisme et l'empereur d'Éthiopie. Maintenant, on n'a plus qu'à lui apposer le terme « Jah », qui signifie « Dieu », et on obtient l'expression « Jah Rastafari », qui ponctue bon nombre des paroles de chansons reggae. Bon, j'ai bien conscience que malgré toute ma bonne volonté, ma prononciation ne fait pas forcément honneur à l'appellation divine dont il est question. Donc pour mieux illustrer mes propos, je vous laisse avec le morceau « Jah Rastafari » d'Althea et Donna, sorti en 1978.
Thank you.
On a donc vu l'importance de Marcus Garvey et de l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Maintenant, il nous reste un dernier acteur à mentionner dans la naissance du Rastafarisme, Leonard Percival Howell. En fait, Howell, c'est le fondateur du mouvement. Voyageur et marin, lorsqu'il arrive en Jamaïque dans les années 30, il a eu l'occasion d'être au contact de diverses théories politiques émergeant en son temps. On a l'époque des utopies, on parle de la Première Guerre mondiale comme de la Der des Der, on a les théories marxistes et les discours de Marcus Garvey sur la rédemption du peuple noir qui prennent une ampleur non négligeable. À tout ça, s'ajoute le couronnement donc de l'empereur d'Éthiopie qui vient affirmer les idées de Garvey auxquelles Howell adhère en partie. En fait, Howell il va surtout se retrouver dans les propos de Garvey lorsqu'il s'agit de la question de la reconstruction de l'identité. Et c'est donc avec toutes ces influences en tête qu'Howell décide d'acheter un terrain en Jamaïque. C'est ainsi que le Pinacle est créé à la fin des années 1930. Lieu pionnier du rastafarisme, le Pinacle c'est un domaine isolé situé dans les montagnes de Jamaïque. Cette initiative d'Howell répond à cet idéal de terre promise et à ce besoin vital de s'émanciper de l'ordre colonial qui régit alors l'île. Cette communauté est un véritable creuset de théories et idéaux politiques et dont le principe phare est le suivant, le respect de l'autre et de la liberté de penser. Ses habitants sont appelés les Rastafariens en raison du culte qu'ils rendent à, vous l'aurez compris, Haïlé Sélassié Ier. Ils sont mus par la philosophie du I&I, qu'on écrit I espace N espace I, le concept de reasoning et le principe de levity.
I&I. When I say I&I, the first I is the Almighty I. That I that I could see it, the I within my heart. That is Jah. And the next I is just I and my brethren. So even when I speak of I&I, I. Every fruit has that eye. Everything that liveth have that eye. Were I to look for God, I would look in the flowers. Therein is the life.
Dans une thèse intitulée I&I Vibration, World Sound and Power in Rastafari Music and Reasoning, l'anthropologue Benjamin Bean explique la philosophie du I&I de la manière suivante. I&I, en fait, remplace le nous. Et exprime ainsi une philosophie selon laquelle les individus partagent une essence commune avec Jah ou Dieu. Dans sa thèse, le chercheur nous explique aussi le concept de reasoning, et alors je cite « Reasoning, donc littéralement raisonner, est une forme sacrée de dialogue, un échange d'idées ou de sons à propos des sujets concernant la foi, l'identité ou encore les buts collectifs. » Enfin, on a aussi le concept de levity, qui est défini ainsi dans la thèse comme étant quelque chose qui va au-delà d'un mode de vie et qui est aussi différent d'un système de croyance. En fait, levity, ça serait un concept qui motiverait les Rastafariens à ajuster leur comportement et leur attitude afin de poursuivre un idéal de paix et d'harmonie entre les humains et, à une échelle plus globale, entre toutes les créations de Dieu. On comprend donc clairement l'importance de la relation avec Dieu, l'harmonie avec les autres et la nature, et l'aspect mystique selon lequel ces relations sont entretenues. Enfin, au niveau du son, les Rastafari ont un concept qui leur est propre et qui est celui de World Sound Power. Benjamin Bean explique ainsi le concept. World Sound Power est l'idée selon laquelle les vibrations de notre discours, tout autant que la musique, ont un impact réel sur le monde matériel et pas seulement dans le sens des relations sociales. Cette relation directe entre les mots, le son et la puissance qui leur est octroyée dans le mouvement, on la retrouve bien entendu dans le reggae, qui apparaîtra quelques années plus tard. Mais à ce stade, on peut néanmoins noter une musique traditionnelle des Rastafari au début du mouvement, qui fait appel à des sonorités issues d'Afrique, puisqu'il y a toujours cette idée de retour aux sources, et dans laquelle on a donc des percussions et des chants Nyabingi. Cette musique Nyabingi, c'est alors un mélange entre le gospel du 19e siècle et des percussions africaines. Histoire de vous donner une idée du style de musique dont il est question, je vous mets un extrait d'une session Nyabingi avec l'incontournable Bunny Wailer.
Yeah, Ross.
Et maintenant, je vous laisse avec le morceau Sata Masagana du groupe Abyssinians, qui fait office d'hymne Rastafari et dont les paroles ont été écrites en 1969 et dans lesquelles vous retrouverez encore et toujours l'idéal d'une terre promise.
And you will see that he rules us all. That he rules us all.
En 1958, après quasiment 20 ans d'existence, le Pinacle est détruit, après un raid des autorités. Ses habitants descendent donc en ville et la grande majorité se retrouve à s'installer dans les ghettos de Kingston, capitale de la Jamaïque. Là, on va assister à la rencontre entre les idéaux Rasta et les possibilités musicales offertes par la vie urbaine. Les jeunes adeptes du rastafarisme vont très vite être influencés par le jazz, qui est le genre dominant sur l'île à l'époque, mais aussi le blues et des mélodies traditionnelles jamaïcaines et africaines. Tous ces sons vont aboutir au ska. Le ska, c'est une musique joyeuse, voire euphorique, qui va bien avec l'ambiance qui règne en Jamaïque lorsque le pays est déclaré indépendant en 1962. On peut aussi mentionner l'émergence du rocksteady à cette époque. Pour le reggae, patience, ça arrive bientôt, mais avant tout, je vous propose d'écouter le morceau In the Mood for Ska du groupe incontournable de ska de l'époque, les Skatellites.
I'm in the mood for ska, simply because you're near me. Heaven is in your eyes, bright are the stars we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for sky? Why stop to think of weather? This little dream may fade. We put our heart together. If there's the cloud above, if we should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for sky.
À la fin des années 60, l'euphorie de l'indépendance est passée, d'autant plus qu'une certaine colonialité régit toujours les rapports entre les habitants de la Jamaïque. On est donc dans une période de désillusion et il devient nécessaire de revendiquer ses droits. Alors, on assiste à une fusion entre le ska et le rocksteady, on ralentit le tempo, histoire de pouvoir se concentrer sur les paroles, puis on affirme la fierté d'une identité noire avec des textes portant les valeurs du rastafarisme. Et c'est ce cocktail d'influences musicales et revendicatives qui aboutit, enfin, au reggae. La première utilisation du mot reggae est revendiquée par le groupe Toots and the Maytals avec leur morceau « Do the Reggae » sorti en 1968. Si ce morceau opte pour des paroles plutôt légères, le groupe n'en reste pas moins engagé dans d'autres sons. Mais du coup, à ce sujet, je me dois bien de mentionner qu'il faut attendre les années 70 pour avoir des textes particulièrement politiques. Cette décennie offrira des morceaux tels que celui « Concrete Jungle » de Bob Marley, sorti en 1973, et dans lequel il dénonce les conditions de vie des ghettos de Kingston et emploie une phrase particulièrement frappante « No chains around my feet, but I am not free ». Bon, là je vais un peu vite en besogne, je le reconnais. Alors, on ralentit le tempo et on s'écoute d'abord ce fameux « Do the Reggae » de Toots and the Maytals.
Yes, sir.
One, two...
À partir du mouvement Rastafari, on a donc tout un univers à la fois sonore et visuel qui s'est développé. On a des éléments de vocabulaire en particulier propres au mouvement, tels que le terme « Babylone ». Ce mot est alors employé pour faire passer un message de résistance face au système oppressif. Plus précisément, Babylone désigne ce système oppressif, et notamment l'ordre colonial, toujours subi malgré l'indépendance. À nouveau, j'aimerais vous citer les travaux de Benjamin Bean pour éclaircir ce point et vous citer la définition qu'il y fait du terme « Babylone ». Alors je cite... Babylone est un terme généralement utilisé pour désigner une oppression institutionnalisée et notamment d'ordre colonial. Mais dans un certain sens, Babylone se réfère aussi à toutes sortes de mal au sein des sociétés et des individus. La résistance passe non seulement par le sens des mots, mais aussi leur forme. Je m'explique. Dans le reggae, on va retrouver l'usage du dread talk. Alors, ce langage, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un langage en quelque sorte créé par les Rastafari, puisque ce dernier rejetait à la fois l'anglais standard, mais aussi le créole jamaïcain. Benjamin Bean explique ainsi l'importance du dread talk, en précisant que c'est un des nombreux exemples de l'ingéniosité linguistique jamaïcaine. En fait, ce langage et son usage reflètent l'héritage du mouvement de résistance à l'oppression coloniale britannique. Cette façon de s'approprier, de manipuler et de modifier l'anglais est donc une arme pour les Rastafari. En agissant ainsi, ils défient et bouleversent les codes linguistiques de l'ordre colonial. Ils résistent contre ce système oppressif qu'est Babylone. À une certaine échelle, c'est une véritable révolution. L'attention toute particulière pour le texte est donc intrinsèque au reggae. C'est avant tout une musique qui doit porter des messages, éduquer ses auditeurs. C'est une musique qui se comprend. Bon, on a parlé des aspects sonores, mais le rastafarisme et par extension le reggae est aussi pourvu de pas mal de signes visuels qui véhiculent le message rasta. À ce sujet, on a notamment les couleurs rouge, or et vert. Leur explication est notamment donnée dans le morceau Red, Gold and Green du groupe Soul Syndicate.
Red, the blood they shed for freedom's sake. Gold, the wealth they know they'll never make. But green, the hope they all hold dear, of one day living free from fear. Under the banner of red, gold and green.
Ici, on nous précise donc qu'on a le rouge, qui correspond au sang des esclaves versé au nom de la liberté, l'or, qui évoque la richesse des terres africaines, mais aussi ici leur inaccessibilité, et enfin le vert, qui évoque l'espoir et notamment celui d'un retour en terre promise. On a aussi la figure du lion, symbole du pouvoir royal en Éthiopie, les dreadlocks et un dernier et pas des moindres, la ganja. Cette plante a, pour les Rastafari, des vertus thérapeutiques. Elle ouvrirait la voie à la méditation, voire permettrait l'élévation de soi. Bon, allez, assez parlé, et pour le coup, je vous laisse méditer toutes ces infos avec un morceau sorti en 1976 et au titre plutôt explicite, Legalize It, d'un grand musicien du genre, Peter Tosh. Alors voilà, on a parlé de l'engagement et du militantisme du reggae, et à ce stade, je me donne mentionner la légende du genre qui n'est autre que Robert Nesta Marley, connu sous le nom de Bob Marley. On est en 1964 lorsque Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer enregistrent leur premier disque sous le label Studio One. Simmer Down, un morceau de ska, est leur premier tube, mais c'est pas non plus un franc succès. En 1966, Bob Marley se marie avec celle qui devient alors Rita Marley. Et peu de temps après, il s'en va pour les États-Unis, histoire d'y travailler et de mettre un peu d'argent de côté. Cependant, il ne reviendra pas des States avec seulement un capital économique, mais bien tout un tas d'influences qui, finalement, vont façonner et peaufiner son approche de la musique. Bah ouais, parce que, quand on y pense, les années 60 aux États-Unis, c'est l'époque de la soul, de la musique psychédélique noire avec Hendrix et du mouvement Black Panther. C'est avec ces influences, mais aussi avec la certitude de ne pas vouloir adopter la culture matérialiste états-unienne, que Bob Marley revient donc en Jamaïque.
Have you made a lot of money out of your music?
Money? I mean, what is how much is a lot of money to you?
Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
No.
Are you a rich man?
What do you mean rich? What do you mean?
You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life.
En 1972, Bob Marley se rend à Londres et il y rencontre un allié de taille qui n'est autre que le producteur Chris Blackwell. Alors Chris Blackwell, c'est un Jamaïcain blanc qui fait partie des riches familles de l'île et est le seul à cette époque à oser parier sur la musique jamaïcaine puis sur le reggae. Alors, en 1973, sort le disque Catch a Fire sous le label Universal Island Records. Comme mentionné précédemment, c'est dans les années 70 que les textes se font plus politiques. À ce titre, on a donc le premier morceau du disque, Concrete Jungle, dont je parlais un peu plus tôt et dans lequel Bob Marley relate des conditions de vie dans les ghettos de Kingston. La même année sort l'album Burning, et cette fois-ci le premier morceau du disque n'est autre que Get Up, Stand Up. Bob Marley et les Wailers, véritables ambassadeurs du reggae et par extension du rastafarisme, prônent donc explicitement les valeurs de résistance et de fierté noire, tout en dénonçant l'ordre colonial. On retrouve alors clairement l'influence des discours de Marcus Garvey, qui étaient prononcés quasiment 50 ans auparavant. Enfin, pour illustrer tout ça, je vous laisse maintenant avec le morceau Concrete Jungle de Bob Marley and the Wailers, sorti en 1973. Un événement qui va propulser Bob Marley et par extension le reggae sur la scène internationale, c'est lorsqu'Eric Clapton reprend le morceau I Shot the Sheriff lors d'un concert en 1974. Le titre est alors interprété par celui qui est considéré comme un des meilleurs guitaristes au monde et est certifié disque d'or aux États-Unis.
Say it is a capital law.
Ça y est, le reggae est sorti de son île natale et Bob Marley and the Wailers porte le son et son message aux quatre coins du monde. Le reggae, cette musique pour les opprimés avec laquelle les chanteurs s'expriment pour celles et ceux qui n'ont pas de voix, prônant le renversement de Babylone, ce système oppressif qui détruit tout sur son passage. Le reggae, ce son qui prêche le fait de lutter ensemble, de prendre conscience de ses droits et de les clamer haut et fort, avec fierté. Ainsi, Bob Marley devient le héros des classes populaires, voire même accède au statut de messie. En 1976, deux partis politiques s'opposent pour les élections législatives jamaïcaines. Le PNP, Parti National du Peuple, qui propose une politique de socialisme démocratique, et le JLP, Parti Travailliste de Jamaïque, à tendance conservatrice. L'opposition distincte entre les deux partis se répercute sur le peuple jamaïcain, qui se divise alors lui aussi en deux, engendrant une atmosphère de tension sur l'île. Sur le plan économique, le pays connaît une crise avec la montée des prix du pétrole et le rachat des domaines sucriers. On peut aussi relever l'intervention des États-Unis dans tout ça, qui vient ajouter aux tensions ambiantes. En effet, le PNP, qui était alors le parti au pouvoir à ce moment-là, a été jugé trop proche de Cuba par les États-Unis. Alors ces derniers, de peur que la Jamaïque ne devienne un nouveau Cuba, ont pris l'initiative d'armer les opposants de Michael Manley, le Premier ministre et donc représentant du PNP. Tout ce contexte aboutit à une violence générale et non négligeable au sein de la population, si bien que Michael Manley déclare alors l'état d'urgence et va jusqu'à faire installer des tanks dans les rues. Alors vous me direz, quel est le rôle direct du reggae dans tout ça ? Bah en fait, dans un premier temps, on peut poursuivre sur la logique d'un genre engagé avec des sons qui répondent aux crises sociétales. Un exemple serait alors le morceau No More Fighting, des chanteuses Althea et Donna, sorti en 1978 et que je vous propose d'écouter de ce pas. On a donc des prises de position volontaires de la part des artistes, mais malgré ce libre arbitre, on a aussi dans un second temps une relation ambiguë entre la scène musicale jamaïcaine et la politique. Je m'explique. Pour apaiser les tensions grandissantes, et particulièrement violentes en cette période d'élections législatives, le parti au pouvoir, le PNP, décida d'organiser le Smile Jamaica Festival, dans l'optique de promouvoir la paix. Évidemment, le ministère culturel en charge de l'organisation demande à ce que Bob Marley vienne jouer. Et là, vous la voyez venir, la récupération politique et notre fameuse relation ambiguë ? Bon, il n'en reste pas moins que notre pape du reggae accepte de venir jouer, mais fait attention à toujours affirmer sa position apolitique. Sauf que... Bah, ça s'arrête pas là. Alors, deux jours avant le concert, qui a eu lieu le 5 décembre 1976, un attentat est perpétré contre Bob Marley alors qu'il était en pleine répétition avec les Wailers, préparant leur performance pour le festival. Les assaillants tirent dans tous les sens, mais par miracle, il n'y a aucun mort. Marley et sa femme sont touchés, mais s'en sortent. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui sont les auteurs de cet attentat, ni même quels ont été leurs motifs. Mais on a plusieurs hypothèses. L'une d'elles étant un coup de pression du parti opposé au PNP, le JLP, qui ne souhaitait pas que Marley participe au concert. Une deuxième hypothèse, c'est une tentative du PNP de faire passer Bob pour un martyr et lui faire comprendre que sans la protection que le parti lui assurait à l'époque, il était la proie de nombreux dangers. On a aussi une hypothèse d'un pari et de dettes à rembourser, bref, c'est flou tout ça. Quoi qu'il en soit, on voit bien comment Bob Marley s'est retrouvé malgré lui au milieu des joutes politiques qu'il exècre pourtant plus que tout. En tout cas, les tensions grandissantes sur l'île et la récupération politique dont le reggae fait l'objet lui inspireront le titre un peu plus explicite, Rat Race, sorti en 1976 et qui signifie littéralement la race des rats, et s'adresse aux politiques. Finalement, Bob Marley aura quand même la possibilité de jouer au Smile Jamaica Festival malgré ses blessures, mais les événements marquent un tournant assez décisif pour le chanteur. Peu de temps après le concert d'ailleurs, il fait choix de s'exiler et il partira pendant 2 ans, notamment en Angleterre. Il reviendra en Jamaïque en 78 pour le concert One Love Peace, durant lequel on assiste à la réconciliation des deux partis politiques opposés avec une scène absolument extraordinaire. On a alors Bob Marley sur scène, qui présente les deux représentants des partis, Michael Manley et Edward Tiga, avant que ces derniers ne le rejoignent et se serrent la main.
Wanna shake hands and show the people that we gonna meet them right. We gonna unite. We gonna meet them right. We gotta unite.
Enfin, en 1980, Bob Marley est rattrapé par la maladie et doit mettre fin à sa tournée en cours. Son dernier concert fut alors celui de Pittsburgh. Et la dernière chanson qu'il interpréta sur scène fut Get Up, Stand Up. Bon, si la mort de Marley ne met bien évidemment pas fin au mouvement du reggae, en tout cas sa disparition sonne bel et bien à la fin de notre émission. Alors je vous laisse ici avec un dernier morceau, je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de L'Appel d'un Mouvement.
Stand up for your right. up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights.
Yeah.
We're sick and tired of your ism, schism game. Dine and go to heaven.